Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonna Bolivier, l'heure du documentaire. En canoë, en pédalo, ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue à la pêche à pied, en escalade, pour les moissons, au bain de soleil, en tricotant, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, cette heure est pour vous. 53 minutes, choisies dans 10 années de Sur les docks, un thème et 4 épisodes pour faire vagabonder ses pensées et prendre les chemins de traverse. Cette semaine, Passeur de réel. Et aujourd'hui, Jean-Xavier de l'Estrade, un documentaire de Joseph Confavreux réalisé par Diffy Mariani. Documentariste, un drôle de mot pour un métier difficile à définir. Il y a autant de documentaristes que de documentaires. Ceux qui regardent le monde qui va mal pour qu'on ne l'oublie pas, ceux qui regardent le monde qui va bien pour qu'on ne perde pas espoir, ceux qui regardent le monde qui disparaît pour qu'on n'oublie pas, ceux qui se regardent regarder le monde, ceux qui apparaissent à l'image, ceux qui n'y apparaissent pas, ceux qui interviennent, ceux qui se font oublier, ceux qui vont au combat, ceux qui sont en empathie, ceux qui ont un avis, ceux qui font comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui veulent comprendre, ceux qui veulent contempler, ceux qui veulent expliquer, ceux qui veulent dénoncer, ceux qui veulent raconter, ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent et ceux qui ont trouvé une vraie histoire. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours un regard particulier, celui du documentariste. Alors aujourd'hui, deuxième volet, faites connaissance avec Jean-Xavier de l'Estrade.
Monsieur le Président, vous pouvez me dire qu'il s'agit d'un procès de génocide. Mais je dis, Monsieur le Président, que le procès de génocide répond aussi à des éléments, n'est-ce pas, juridiques que le ministère public est tenu de démontrer devant votre auguste cour. Le ministère public n'a pas si démontré effectivement. Est-ce que tout l'ensemble de ce groupe avait l'intention, je dis bien l'intention constante de donner la mort? Faire la justice, c'est le service qu'on peut rendre le mieux à une population. Mais il y a un principe en droit qui dit qu'il vaut mieux laisser 100 coupables libres que de punir un innocent, Monsieur le Président.
Passeur de réel, Jean-Xavier de l'Estrade. Un documentaire de Joseph Confavreux et Diffy Mariani.
En conséquence des réponses qui précèdent, la Cour et le jury réunis après avoir délibéré sans désemparer condamnent à la majorité absolue Véronique Fièvre et Pousse Courgeot à la peine de 8 ans d'emprisonnement. L'audience criminelle est levée.
Le premier vrai sujet ambitieux documentaire auquel je me suis attaqué, qui était un sujet un peu difficile qui concernait la délinquance sexuelle et donc qui était le portrait de 3 délinquants sexuels et moi, j'avais pris justement comme point de vue, comme point de départ, je disais, il faut entendre ces hommes-là, il faut entendre leurs paroles, il faut entendre leur histoire, il faut se mettre dans leur point de vue. C'est en 1994 et peut-être que ce point de vue était à l'époque inentendable, si je peux employer ce terme, ou peut-être trop violent, trop fort. En tout cas, le film a été considéré comme tel. Cette parole-là, on m'a dit, on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas l'écouter. Ou alors vous faites le choix de, oui, vous en prenez des petits bouts et autour d'eux, vous mettez des avocats, des médecins, des psychiatres et on va expliquer cette parole-là, on va décoder cette parole-là, mais on ne va pas la livrer frontalement au spectateur. Et c'est exactement ce dont je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas. Moi, je voulais que le spectateur soit confronté à cette parole et que cette parole agisse en lui et le trouble et l'inquiète peut-être, le dérange. Mais c'est ça le travail, au fond, le véritable travail documentariste, c'est celui de déranger un petit peu et d'obliger le spectateur à voir ou à être confronté à des situations qui le met un peu en position délicate ou en tout cas inconfortable. Mais voilà, le film n'a pas été diffusé et ça a été, pour moi, un vrai échec, enfin une forme de violence. Et d'ailleurs, l'ironie veut que la maison de production qui a produit le film a fait faillite, pas à cause de ça, mais elle a fait faillite. Et je n'ai aujourd'hui plus rien, ni les rushs, ni même une copie de montage, ni le master. Il n'y a plus aucune trace de ce film.
Ça se trouve, il n'existe pas.
Si ça se trouve, c'est une pure fiction.
Ce premier film, Portée disparue, n'a guère entravé le parcours documentaire de Jean-Xavier de l'Estrade, puisqu'il a depuis signé une dizaine de films, jusqu'à obtenir la reconnaissance d'un Oscar en 2002 pour Un coupable idéal, consacré au procès d'un jeune noir accusé de meurtre en Floride et finalement innocenté. Jean-Xavier de l'Estrade est désormais considéré comme le documentariste des grands procès, comme Raymond Depardon et celui de la justice ordinaire. Il a ainsi réalisé une série documentaire sur l'écrivain Michael Peterson, accusé du meurtre de sa femme et depuis emprisonné à vie, puis, tout récemment, un film hybride mêlant images d'archives et reconstitutions filmées et fidèles des audiences du procès de Véronique Courgeot dans l'affaire dite « des bébés congelés ». Mais si l'on remonte dans la filmographie de Jean-Xavier de l'Estrade, à son film consacré au génocide des aborigènes en Australie ou à celui des Tutsis au Rwanda, on s'aperçoit que l'ancien étudiant en droit n'est pas seulement devenu un cinéaste des prétoires. Ce qui l'intéresse, c'est avant tout les monstres, ceux qui peuplent l'histoire, ceux que les médias veulent nous montrer comme tels, ceux que la justice soupçonne d'être des étrangers au corps social, mais aussi ces monstres mécaniques produits par les déchaînements ou les dysfonctionnements de nos institutions, notamment judiciaire.
Qu'est-ce que c'est qu'être humain ? C'est quoi l'humain ? Ça veut dire quoi ? Et je pense que aller chercher cette interrogation, mettre ou poser cette interrogation en observant des gens qui ont l'étiquette de monstre, c'est-à-dire essayons de chercher derrière l'étiquette, derrière ce qu'on nous présente pour peut-être nous préserver, on se dit... C'est facile. Quand on met l'étiquette de monstre à quelqu'un, ça veut dire qu'il n'est pas comme nous. Donc ça veut dire que ça ne nous concerne pas. Ça veut dire que c'est une réalité qui n'a rien à voir avec nous. Or, moi, tout mon travail, c'est de dire, au contraire, cet homme-là ou cette femme-là que l'on considère comme un monstre ou une monstre, elle a à voir avec nous. Parce que peut-être, en ayant commis ce qu'elle a commis, peut-être est-elle encore plus humaine que nous ne le sommes.
Vous avez tué combien de personnes à peu près ?
Je ne pourrais pas préciser, mais en tout, je pourrais dire que c'est plus de 80 personnes. Je l'ai très bien expliqué dans mon dossier, lors de mes aveux. Nous avons attaqué le 7 avril 1994 la famille Zeraguila. Ils étaient à distance de 50 mètres, 60, et on a commencé par employer les armes traditionnelles, des bateaux, des massues, des machettes, des pierres. Et nous avons tué la dame Nyirabusoro et ses 5 enfants. Évidemment, sans oublier le petit d'une semaine, à coups de massue, à coups de bateau.
Mais pourquoi ? Pourquoi coups de massue ? Pourquoi pas avec des armes à feu ?
Et pour ne pas gaspiller. On voit que l'homme en tant qu'homme, humain, intelligent, ne pourrait pas faire cela. Si j'avais bien pensé avant, raisonné à ça, il ne fallait pas s'attaquer à ces petits garçons, à ces petits-enfants, à ces dames. Nous avons fait cela. Je ne sais pas comment expliquer ça. Moi, je me condamne devant les membres, les rescapés, de toutes les familles éliminées, abattues, j'ai commis une faute que je ne pourrai jamais oublier. Je ressens en moi quelque chose comme une voix qui me demande le pourquoi d'avoir fait ça. Je n'ai pas de réponse jusqu'à présent.
Oups. observer le fonctionnement d'une justice est un très bon lieu ou très bon prisme pour mesurer du degré d'une démocratie, du fonctionnement d'une démocratie. Parce que s'il n'y a pas de sentiment de justice, il ne peut pas y avoir de sentiment démocratique. Mais en même temps, l'équité, le sens de l'équité, enfin, c'est quelque chose qui est quasiment un besoin inné chez chaque être humain, qui est sentir que justice est rendue, justice est faite, justice lui est faite. Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Et quand, dans une démocratie, la justice dérape, ben voilà, on change de régime. Quand la justice dérape, elle peut être une machine qui broie totalement les êtres humains.
Brenton Leonard Butler, le prévenu dans cette affaire, est accusé d'homicide volontaire avec préméditation et de vol à main armée. Si vous considérez que Marianne Stephens a été tuée par Brenton Leonard Butler, vous tiendrez compte des circonstances entourant le meurtre pour établir s'il s'agit d'un homicide volontaire avec préméditation, d'un homicide volontaire sans préméditation, ou d'un homicide involontaire sans intention de donner la mort, ou alors si le meurtre est justifiable ou bien s'il résulte d'un état de légitime défense. Un doute raisonnable n'est pas un simple doute éventuel. Ce n'est pas un doute imaginaire ou contraint. Un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé peut résulter des preuves, des contradictions entre les preuves ou du manque de preuves. Si vous avez un doute raisonnable, vous déclarerez l'accusé non coupable. Dans le cas contraire, vous le déclarerez coupable.
J'ai très tôt été attiré par l'image. Je me souviens très bien que vers l'âge de 12-13 ans, j'avais une certitude, c'est que, quand on me disait « qu'est-ce que tu feras plus tard ?», je disais « je raconterai des histoires avec des images ». Voilà. Et j'ai un frère jumeau, et on a évidemment grandi ensemble, et il avait aussi un peu ce goût-là. Quand on était tout petit, quand on allait chez mes grands-parents paternels, souvent il y avait là, que ce soit mon grand-père ou mon oncle, qui nous racontait des histoires un peu de la famille. Et j'avais été très marqué par l'histoire de mon arrière-grand-père qui, à l'âge de 22 ans, en 1863, était parti aux États-Unis, à l'aventure un petit peu, mais dans la tête, c'était pour chercher de l'or, chercher des mines. Et il avait écrit très régulièrement à ses parents, à son père notamment. Et donc, il y avait des centaines de lettres de cette correspondance. Et quand on allait chez mes grands-parents, voilà, on nous racontait des histoires de ce grand-père-là, des histoires avec des Indiens, des histoires de chercheurs d'or, des histoires d'aventure. Et je pense que ça développe énormément l'imaginaire. Et je pense que c'est le point de départ qui a donné ce désir-là de voir raconter des histoires aux gens. Et ma manière de les raconter, moi, c'est pas à travers un micro et la voix, mais c'était très tôt. Avec des images.
Alors pourquoi commencer par des études de droit ?
Ben parce que quand on est quand on a été élevé dans une ferme, le cinéma paraît tellement sur une autre planète, tellement loin que avant d'oser vraiment le dire et l'affirmer, il fallait peut-être passer par un sas d'études un peu plus sérieuses. Pour mes parents, en tout cas, c'était certain. Ça les rassurait. Le droit, je me suis très vite rendu compte parce que je connaissais un juge d'instruction et qui était venu, je me souviens, au cours d'un dîner à la maison, raconter lui des histoires d'enquête. Et ça m'avait donné une autre vision du droit aussi. Et lui avait dit, mais si vous faites des études de droit, ça peut être aussi plaisant parce que, évidemment, le droit, ça peut être extrêmement ardu et très sec. Un arrêt de cour de cassation, c'est quelque chose qui est extrêmement abstrait. Mais derrière ce qui est dit dans l'arrêt, il y a toujours une histoire d'être humain, de désir contrarié, de conflit. Et si on cherche l'histoire derrière l'arrêt, on trouve des passions et on trouve ce qui fait, ce qui tisse une société. Et je me dis, tiens, si on le fait sans pression aucune, de devoir faire un métier lié au juridique, ça peut être des études passionnantes parce que c'est un prisme assez idéal pour voir comment fonctionne une société.
Ces bébés ont été désignés par les numéros 461 et 462. Avez-vous observé une différence entre les deux corps ?
Oui, une différence notable. Sur le corps du numéro 462, nous avons observé un traumatisme facial avec fracture.
On note donc une plus grande violence pour ce bébé-là. Par quel geste, professeur Lecomte, obtient-on de telles lésions ?
Un nourrisson est très fragile. Un geste modéré suffit à entraîner la suffocation. Mais pour le deuxième nourrisson, vu les dégâts aussi observés, une pression plus forte a été nécessaire.
Véronique Courgeot, êtes-vous en mesure de vous souvenir de ces gestes ? Vos premières déclarations parlaient d'étranglement.
Mes souvenirs sont confus. Oui, il me semblait les avoir étranglés, oui.
Professeur Lecomte, vous n'avez observé aucune pression sur le larynx ?
Aucune.
Pourquoi, dans ce cas, Madame Courgeot, avez-vous parlé d'étranglement ?
Je sais pas. J'ai des images très brèves.
Mais vous avez donné des indications précises lors de l'instruction. Et aujourd'hui, tout ceci aurait disparu de votre mémoire.
J'ai voulu apporter des réponses, mais mes souvenirs sont confus. Il était déjà à cette époque-là, mais on me disait des choses.
Professeur Lecomte, qu'est-ce qui, au plan médico-légal, caractérise la vie ?
Que les poumons aient respiré.
Et comment le sait-on ?
Quand l'enfant crie.
Et qu'en est-il de ces deux bébés-là ?
L'examen des poumons prouve qu'ils ont bien respiré.
Donc, Madame Courgeot les a forcément entendus crier.
Vous êtes, je crois, le seul en France à avoir reçu à la fois un prix Albert Londres, qui récompense les journalistes, et un Oscar, qui récompense les cinéastes. Est-ce que vous êtes un journaliste devenu cinéaste, ou est-ce que vous êtes à la fois journaliste et documentariste, Jean-Xavier Destrade ?
Je pense, je ne me suis jamais véritablement considéré comme journaliste parce que j'ai toujours regardé le réel avec un fort prisme de subjectivité. Je crois que je suis incapable d'être un véritable rapporteur de faits. J'y mets toujours beaucoup de subjectivité, d'intuition, de moi-même, et je cherche en permanence derrière les faits qu'est-ce qui se cache de peut-être plus profond, de plus intime, et c'est toute la question en fait de c'est vraiment ça, c'est passer du presque du collectif, du nous où on rapporte les faits pour les autres, à je le regarde de cette manière-là, je vous livre mon regard sur ces faits. Et si mon regard est pertinent, il touche tout le monde aussi.
Est-ce que tous ceux qui étaient sortis de la salle et qui suivent ce procès ont pu reprendre leur place ? Monsieur Stephen Sella, la famille Butler aussi. Pouvons-nous commencer, maître ? Bien. Faites entrer les jurés. Monsieur Young, êtes-vous le président du jury ?
Oui, monsieur le président.
Les jurés ont-ils un verdict ?
Oui, monsieur le président.
Remettez le formulaire du verdict à notre greffière et vérifiez qu'elle fasse bien état de vos conclusions. Mesdames et messieurs les jurés, je vous demande de vous lever pour la lecture du verdict.
Au tribunal de la circonscription numéro 4 du comté de Duval, concernant l'affaire 2056-35CF division CRG, opposant l'État de Floride à Brenton Leonard Butler, le verdict pour le premier chef d'accusation est le suivant. Nous, les jurés, déclarons l'accusé non coupable.
S'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, pas de manifestation dans la salle d'audience. Merci.
Concernant l'affaire 2056-35CF division CRG, opposant l'État de Floride à Brenton Leonard Butler, le verdict pour le deuxième chef d'accusation est le suivant. Nous, les jurés, déclarons l'accusé non coupable. Fait à Jacksonville, en Floride, signé par le président du jury le 21 novembre 2000.
Je vous remercie d'avoir accordé du temps à cette affaire. J'espère qu'en quittant cette salle, vous aurez le sentiment d'avoir collaboré efficacement avec le système judiciaire pour le bien de la collectivité. J'espère que vous êtes fiers du déroulement de ce procès ainsi que de la façon dont vous y avez collaboré, prenant ainsi part à notre système qui est, je crois, le meilleur système judiciaire au monde.
Est-ce que, du coup, Jean-Xavier de Lestrade, il vous est arrivé de considérer votre caméra comme un outil de justice ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Parce que j'ai l'impression que des fois, si on regarde vos trois derniers films, c'est vraiment un procès de, notamment, l'intime conviction, qui est souvent une infime conviction ou une intime confusion.
Alors, Non, enfin, c'est une limite, c'est toujours très très compliqué, et c'est toujours une question fondamentale quand on tourne un documentaire, ce qui est celui de la distance et de la place. Nous, on se trouve où dans l'histoire? De quel endroit filme-t-on? Et on ne peut pas se permettre d'être à la place des jurés ou de vouloir rendre justice à la place de la justice. Mais effectivement, en montrant et en démontant des systèmes, ben on amène les gens à se poser des questions, et donc à se poser des questions sur qu'est-ce que ça veut dire que se construire l'intime conviction, ou bon, aux États-Unis c'est au-delà du doute raisonnable, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un doute raisonnable? Voilà bien une notion bien abstraite et bien complexe. Au fond, on s'aperçoit que dans les procès, ce qui compte énormément, et ce qu'essaie toujours de faire l'accusation, c'est quand il n'arrive pas à avoir des preuves tangibles, physiques, très précises, qui accusent l'accusé, c'est de salir la personnalité de l'accusé. C'est de démontrer simplement que l'accusé pouvait le faire. L'accusé rentre dans le prototype d'une personne qui pouvait commettre ce crime. Brenton Butler, il est noir, donc forcément... il peut faire partie d'un gang, qu'il ait un pistolet sur lui, c'est tout à fait normal ou logique. Enfin, c'est possible. Michael Peterson, parce qu'il a une vie sexuelle bien particulière, ah bah oui, donc c'est quelqu'un de peut-être marginal, d'un peu déviant. Et puis voilà, ce genre de choses doit, dans un couple, ça ne peut pas se vivre dans la paix totale. Ça doit forcément se terminer par un acte de violence. Donc voilà, ça suffit pour le condamner. Oui.
Après son Oscar en 2002 pour son film Un coupable idéal sur le cas Brenton Butler, suspect habituel du fait de sa simple couleur de peau, Jean-Xavier de Lestrade passe de la Floride à la Caroline du Nord et d'un jeune homme noir et pauvre à un écrivain blanc aisé et d'âge mûr, accusé du meurtre de sa femme, retrouvé dans une mare de sang en bas de l'escalier de leur maison. Les rebondissements de l'affaire Michael Peterson furent tellement nombreux que ce qui devait être au départ un long métrage se transforma vite en une série documentaire de 8 épisodes produits par la chaîne HBO sous le titre Staircase, traduit par Soupçon en version française. Cette série documentaire, composée à partir de 650 heures de rush, a contribué à la notoriété du cas Michael Peterson, personnage étrange et fascinant qui a même inspiré un épisode de la série télévisée Les Experts. Mais c'est avant tout le déroulé du procès et surtout la stupeur du verdict qui a ébranlé tous ceux qui ont vu Staircase, mais aussi l'équipe du film, en premier lieu la monteuse Sophie Brunet.
On s'est rendu compte très vite qu'on ne pouvait pas rester trop longtemps dans le procès. Même si c'est passionnant et c'est un côté théâtral, ça devient très vite claustrophobe et au bout d'un moment on n'écoute plus. Donc il fallait, dans la construction, alterner toujours des séquences de procès et des séquences où on allait à l'extérieur, soit voir Michael dans sa famille, ou les avocats.
Sur Staircase, c'était une configuration de salle assez compliquée, et du coup, il a fallu fabriquer une espèce de cage dans laquelle j'étais planquée entre, d'un côté, les jurés et les témoins, pour avoir une position stratégique intéressante pour filmer tout ça.
Isabelle Razavet, chef opératrice.
Quand on se trouve dans une salle d'assises ou dans un procès, on est toujours... il y a quelque chose de la théâtralité. Donc il y a aussi cette question qui est en jeu. Et il y a le plaisir de se retrouver dans un huis clos. J'aime bien cette tension-là.
911, what's your emergency?
1810 Cedar Street, please.
What's wrong?
My wife's had an accident. She's still breathing.
What kind of accident?
She fell down the stairs. She's still breathing. Please come.
Is she conscious?
What?
Is she conscious?
No, she's not conscious.
Okay.
Please.
How many stairs did you
what?
Fall down?
Huh?
How many stairs?
Stairs.
How many stairs? Calm down, sir. Calm down.
No, 15, 20, I don't know. Please, get somebody here right away, please.
Okay, somebody's
breathing.
Dispatching the ambulance no. While I ask you questions.
It's in Forest Hills, okay? Please, please.
Je pense que les documentaires, c'est avant tout un outil de réflexion, un outil qui pose les questions, un outil qui dérange, un outil qui sort du confort. Mais c'est pas parce que c'est tout ça que on n'utilise pas dedans les moyens du cinéma populaire, qui sont l'attention dramatique, on va mettre de la musique, on va resserrer à des moments pour intensifier un petit peu la sensation de suspense. Et dans toute affaire criminelle, quand il y a un procès, on sait qu'à la fin, il y a un verdict. Et on sait qu'à ce moment-là, c'est une sorte de, pour employer un terme scénaristique américain, de climax, que bon, c'est le moment le plus fort, le plus intense, on l'attend. Il est obligatoire, il est là. Et donc, on s'en sert, et je m'en sers. Et oui, outil de réflexion, mais en même temps, on utilise des moyens qui sont ceux du cinéma qui essaye de s'adresser à tout le monde. Et pour ça, il faut aussi rendre les films distrayants. On peut aussi informer un distrayant.
Mais alors, prenons l'exemple de Soupçon, qui est une vraie série documentaire. À l'origine, ça devait être un film. Mm-hmm. Bon, il y avait de quoi, hein, puisque vous aviez, je crois, 650 heures de rush qui sont réduits à 6 heures. Mais vous en faites vraiment une série, comme on parle de ces séries américaines, avec un générique, de la musique, des effets. Et vous appelez ça « polar du réel ».
Oui, alors, « polar du réel » n'est pas un terme que j'ai moi-même choisi. Après, c'est un travail de marketing qui ne m'appartient plus. Si on regarde bien les films... les génériques sont légèrement, enfin à mon avis, un tout petit peu décalés par rapport au corps même du film, qui reste une succession de scènes très construites, très resserrées, mais sur lequel il y a un maître mot qui est simplicité, quoi. Faire comprendre et surtout nourrir la réflexion en permanence. Oui, la simplicité. Chercher quand même la simplicité narrative. Enfin, je vois aujourd'hui, on fait des, il y a des séries où il y a des montages hyper accélérés. Les plans font 3-4 secondes, ça va très vite. Il y a beaucoup de sons. On a l'impression que c'est très très riche, mais tout ça finit par complètement occuper tout votre espace cérébral et on laisse plus rien pour la réflexion. Tellement on est nourri et tellement ça va vite. Je trouve ça assez regrettable.
Mais en même temps, tout dépend des références, parce que par rapport à toute une tradition du documentaire français, j'imagine qu'on peut trouver que Jean-Gazé de l'Estrade, le montage est assez cut, il y a du son, il y a tout ça.
Oui, peut-être. Enfin, peut-être qu'il y a une forme de compromis entre le cinéma, vérité, mais oui.
Non, mais
oui.
Vous revendiquez une certaine efficacité.
Oui, bien sûr. Oui, évidemment. Parce que il faut pas... Sur le Rwanda, il y avait un plan séquence qui faisait 5 minutes 30. On avait réussi à rentrer dans une prison avec un détenu qu'on filmait et on le suit dans le dédale de la prison et le plan est extraordinaire. On découvre un univers qu'on n'a jamais vu et surtout tout fait sens, tout est en place. Or, on n'a pas pu le laisser... parce que le film aussi était destiné à un public, à la télévision, tout ça... Le plan est resté, il fait 2 minutes 15. On aurait fait le film pour le cinéma. Je me serais battu pour que le plan reste entier. Et le plan serait resté entier.
Vous faites un équilibre, vous acceptez certaines contraintes de la télévision jusqu'à un certain point.
Ça serait stupide d'oublier qu'on s'adresse à un public.
Madame le premier juré, j'ai quelques questions à vous poser. Le jury a-t-il rendu un verdict unanime à la question qui lui était posée?
Oui.
Avez-vous rempli le procès-verbal des délibérations?
Oui.
L'avez-vous signé et également paraphé?
Oui.
Très bien. Veuillez donner le verdict à l'officier, je vous prie. Greffière, vous pouvez énoncer le verdict.
Mesdames et messieurs, vous avez rendu le verdict suivant. État de Caroline du Nord contre Michael Haver Peterson, dossier numéro 01 CRS 24821. Nous, les 12 membres du jury, déclarons à l'unanimité l'accusé coupable de meurtre au premier degré, ce 10 octobre 2003. Signé par le premier juré, Christian Glyne Jones. Est-ce votre verdict à tous?
Oui.
Maintenant, veuillez appeler les jurés.
Madame Jones, en tant que premier juré, vous avez déclaré l'accusé coupable de meurtre au premier degré. Est-ce votre verdict et le maintenez-vous?
Oui.
Merci. Juré numéro 1, Monsieur Harrison, veuillez vous lever. Monsieur Harrison, selon
pour tout vous dire, moi-même, lorsqu'on a filmé, le procès avec trois caméras, je filmais avec une caméra qui était la plus proche de Michael Peterson, la plus proche aussi de ses enfants, là, dans un des coins du tribunal. Quand le verdict a été annoncé, mais j'étais totalement abasourdi. Je n'y croyais pas. Je ne pensais pas que c'était possible. Après avoir vécu le procès, bon, on était d'accord, plus proche de la défense, proche de Michael Peterson, mais tout de même, je ne voyais absolument pas comment 12 personnes avaient pu unanimement le condamner à la prison à vie avec les éléments qui avaient été présentés lors du procès. Ça paraissait totalement inconcevable. Et j'étais tellement abasourdi que la moitié des images que j'ai tournées sont floues, sont mal cadrées, sont inexploitables. Parce que je n'arrivais toujours pas à y croire. C'était, sincèrement, totalement inconcevable. Je dis, mais où sommes-nous? Dans quelle parodie de justice sommes-nous?
Je tremblais de la tête aux pieds. J'avais la mâchoire, les bras comme ça. J'étais en totale tétanie.
Isabelle Razavet.
Mais en même temps, complètement obsédée par le fait que il fallait que j'aie ce moment-là. Donc. Finalement, ça me protégeait de l'instant, d'une certaine manière, puisque j'étais concentrée sur avoir le poing, le diaphe, le machin, être au plus juste pour exprimer ce moment-là. Il se trouve que Jean aussi filmait, et que lui, il a été complètement déstabilisé, et qu'il ne pouvait plus filmer. Mais moi, je crois que je me raccroche à des choses très techniques dans ces moments-là. Mais physiquement, oui, j'étais extrêmement atteinte, oui. Mais du coup, on se dit, il faut en rendre compte. C'est tellement... insupportable ou essentiel ce qui se passe là, qu'on ne peut pas lâcher l'affaire à ce moment-là. Donc, une espèce de petite voix comme ça.
Alors après, vous dites, bah oui, mais ça c'est la déformation un peu du métier. Vous dites, c'est terrible pour lui, c'est terrible pour la famille. Et j'avais sincèrement beaucoup de peine pour lui, et beaucoup de peine parce que ça me paraissait tellement injuste que c'était un peu terrifiant. Et vous disiez surtout qu'il ne m'arrive rien dans ce pays parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver. Vous ne savez pas où ça peut vous mener quand vous êtes pris dans le système. Mais après coup, 24 heures plus tard, vous réveillez et puis vous dites... Bah oui, c'est terrible pour ce qui arrive pour eux, mais votre film est meilleur parce qu'il a été condamné et que vous allez monter le film. Et vous savez qu'à la fin le verdict ce sera guilty, il sera beaucoup plus fort. Et ça, vous y échappez pas à cette réalité là.
Ouais, ça doit faire bizarre.
Oui, ça fait extrêmement bizarre. C'est un sentiment assez terrible. D'un côté, vous avez vous, le professionnel, il dit mais c'est tellement inouï cette histoire. Enfin, c'est tellement inouï ce verdict que le film est 10 fois meilleur. S'il avait été déclaré non coupable, bah oui, le film était très bon parce que ça. Mais là, c'est un tel scandale que à la fin du film, les gens vont s'en souvenir tout le temps. Ils s'en souviendront tout le temps.
Et alors, il y a un dernier rebondissement après le film.
Oui. C'est que, la monteuse du film à qui j'ai monté plusieurs films, qui s'appelle Sophie Brunet, et par la suite, après avoir monté le film, et on a tout de même passé presque une année à monter ce film, à être très proche des personnages, et donc très proche, à écouter la voix, les discours, les commentaires, les interviews de Michael Peterson. Donc Sophie Brunet est tombée amoureuse de Michael Peterson.
Moi, ce qui est le plus... Enfin, je ne sais pas si c'est le plus incroyable, mais disons, ce qui pour moi a déclenché le fait que j'ai poursuivi cette histoire, que ça n'a pas été uniquement le montage d'un film, c'est l'absolue barbarie de ce verdict. Quand j'ai appris que Michael Peterson était condamné à la prison à vie, j'ai eu le sentiment que je voyais sous mes yeux un homme que je connaissais, parce que au fil des mois, à force de monter, comme je le disais à l'époque à mes amis, j'avais l'impression de passer plus de temps dans la cuisine de Michael Peterson que dans la mienne. j'ai eu l'impression, oui, de voir que sous mes yeux, on mettait cet homme dans un tombeau et qu'on fermait le couvercle sur lui. Quoi. C'est quelque chose de, je trouve, de tellement monstrueux. Ça a été trop pour moi. Ça m'a obligée à faire un pas de plus dans cette réalité. Quand on monte un film, on sait très bien que on n'est pas, y a pas de rapport direct entre nous. Cette personne réelle rentre dans notre vie, mais il n'y a pas de réciprocité. Et c'est une situation que je connais et qui me va très bien. Et là, c'était plutôt un acte de ma part, au départ, de générosité ou de révolte par rapport au sort qui lui était fait. Ensuite, à partir du moment où je lui ai écrit, je suis allée le voir, on est rentré dans un autre type de relation, une relation personnelle qui est plutôt la relation de la monteuse et du personnage.
Est-ce que si le verdict avait été différent, vous auriez, alors c'est malheureusement de la justice fiction, vous auriez développé les mêmes sentiments envers Michael Peterson?
Non, sans doute pas, non. Je pense que les sentiments existent après quand il y a une vraie relation, un vrai contact, même s'il est épistolaire. Si c'est au travers d'un écran, on a une forme d'empathie qui pour moi a été très forte, mais... qui est pas, enfin, la relation humaine, c'est ça, c'est un contact, c'est, là, je vous connais parce que je vous parle et vous me parlez. Si simplement vous me parlez et que moi je peux pas vous répondre et que je fais que manipuler votre image, j'aurais pas le sentiment de vous avoir connu, même si je vous ai rencontré seulement une demi-heure.
On peut pas dire, donc, comme on entend parfois, que Sophie Brunet est une monteuse qui est tombée amoureuse d'un personnage de documentaire.
Je sais que c'est la fiction qui circule, mais je crois pas que ce soit tout à fait vrai. Enfin, de toute façon, ces choses-là sont très mystérieuses. Les sentiments se nourrissent de tout, mais bien sûr que ça a été nourri aussi de ce que je connaissais de lui, de ce que j'avais vu de lui à travers le film, et aussi de m'être occupée de lui d'une certaine façon, parce que monter, c'est s'occuper des personnages, c'est s'occuper du film, et dans un cas comme celui-là où moi je suis rentrée en empathie avec lui, donc j'espérais qu'il serait innocenté, j'espérais que ce film l'aiderait aussi, et après j'ai même espéré que ce film l'aiderait après le verdict, ce qui n'a absolument pas été le cas, parce que la justice contrefou de ce genre de choses, mais évidemment à partir du moment, faire quelque chose pour quelqu'un, c'est aussi commencer à avoir un sentiment pour lui, les choses se nourrissent comme ça. Mais la belle idée, la belle histoire, dans ma salle obscure, j'étais... Enfin, je ne suis pas une midinette à ce point.
Si Jean-Xavier de Lestrade a réussi involontairement à créer une étonnante intimité entre sa monteuse et le personnage principal de sa série documentaire Staircase, c'est sans doute aussi parce qu'il promène sa caméra au plus près des sentiments humains, des nœuds de l'intimité et des histoires personnelles. Cette caméra, dirigée donc vers ce qu'il y a de plus profond et souvent de plus violent dans l'être humain, a longtemps été tenue dans le parcours cinématographique de Jean-Xavier de Lestrade par son propre frère jumeau, Thierry de Lestrade, jumeau au point d'être également documentariste, de s'intéresser au fonctionnement de la justice et d'avoir fait aussi des études de droit. Depuis, c'est Isabelle Razavet qui a eu la tâche de succéder à ce poste, pas toujours de tout repos, de chef opérateur de Jean-Xavier de Lestrade.
La caméra me protège, c'est fou. Je crois que je ne pourrais pas affronter le quart de ce que j'affronte avec une caméra entre le réel et moi, oui, bien sûr. Et du coup, Jean, il m'envoie beaucoup au front comme ça. Dans notre relation, il y a un truc comme ça, où je vais avec la caméra. Il y a des moments où c'est très délicat de sortir la caméra. Parce que justement, comme vous dites, c'est des moments où je joue quelque chose d'extrêmement grave, intime, difficile. Voilà, mais j'y vais, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose.
Sur ce rapport à l'intime, Jean-Xavier de Lestrade, en regardant vos films, parfois je ne savais plus où me situer. Parce que à la fois vous êtes dans les prétoires, souvent vous montrez comment une mécanique judiciaire peut justement être complètement décalage avec une histoire humaine. Vous faites vôtre la devise que rien de ce qui est humain ne vous est étranger. Donc vous essayez de comprendre l'humanité même de gens qui sont considérés comme des monstres, qui est une vraie démarche documentariste. Et en même temps, vous choisissez souvent de planter votre caméra dans le lieu où on recueille une parole très intime, mais absolument pas documentaire, en ce sens qu'elle est, on a une injonction quand on est accusé de se livrer, de dévoiler tout de soi, sa pire intimité, sa vie sexuelle, tous ses petits secrets. Du coup, comment vous vous posez, vous, la question du voyeurisme? Parce que j'ai l'impression que le spectateur, il peut être à la fois content de se dire, bon, il y a une réflexion sur la justice, il y a un regard sur la mécanique judiciaire, et en même temps, sidéré parce qu'on entend là des paroles qu'on n'entend nulle part.
Une fois que ces propos sont exprimés publiquement, et une salle d'audience, c'est un lieu public. Tout le monde peut entrer, s'asseoir et écouter ce qui va être dit. Poser ces caméras là et ensuite rendre public ce qui a été dit dans une salle d'audience, ça ne me pose aucun problème parce que ça place le spectateur dans la position du public qui avait à ce moment-là, et ce fait existe en dehors de nous. On le recueille, après, effectivement, on le rend beaucoup plus public qu'il ne l'aurait été s'il n'y avait pas eu de film. Évidemment, mais ces propos existent, ils sont là, en dehors de notre présence. Enfin, moi, je me pose toujours la question, c'est quelque chose qui est, quand on est en salle de montage, c'est toujours, est-ce que je place le spectateur dans une position de voyeur ou pas ? Va-t-il se sentir placé à un endroit où il a l'impression qu'il n'aurait pas dû être ? Il n'aurait pas dû être témoin de cette scène, il n'aurait pas dû être témoin de ces propos-là. C'est ça la véritable question. Mais moi, ça me choque toujours de voir des films dans lesquels j'ai ce sentiment, je me dis, oula, ce que je suis en train de regarder, en fait, je ne devrais pas le regarder. Je ne suis pas à ma place en train de voir ça. Ça fait partie d'une intimité, de la vie de quelqu'un qui... tout ne doit pas être rendu public. Tout n'est pas accessible à tout le monde. Et c'est une évidence qu'il faut que l'on répète tout le temps. Parce qu'un film, ça se fait autant par ce que l'on montre que par ce que l'on ne montre pas. Par ce qui est dans le champ et ce qui est hors champ, évidemment. Et il y a plein de choses qu'on laisse tomber, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à filmer, qu'on regrette, et après on se dit, mais heureusement que j'ai pas pu filmer ça, parce que j'aurais été très tenté de le monter, et ça aurait été une catastrophe, parce que non, on ne peut pas montrer tout des gens, ça c'est sûr.
Véronique Courgeot, pourquoi avoir parlé d'étranglement au cours de l'instruction ? Vous dites, j'étais accroupi dans la salle de bain, et j'ai étranglé le bébé de la main droite.
Quand j'ai parlé d'étranglement, je me souvenais pas vraiment. Je répondais avec ce qui me venait, avec ce qu'on me disait.
Parlez plus fort, Madame Courgeot. Cette idée de l'étranglement, vous allez la maintenir longtemps. Je les ai étranglés en les regardant. J'ai maintenu la pression de mes mains un certain temps. Ce qui retient l'attention, c'est en les regardant. Comment avez-vous géré le processus de l'accouchement ?
Géré le processus ? J'ai pas géré grand-chose, c'est arrivé, c'est tout.
Et chaque fois, vous aviez eu des contractions pendant la nuit qui a précédé, puisque vous déclarez avoir accouché le matin.
Oui. Oui, je me souviens des contractions, oui.
Et comment faites-vous pour que votre mari ne se rende compte de rien ?
J'ai rien fait de particulier.
Est-ce que vous vous souvenez du temps qu'ont duré ces accouchements ?
Quelques heures, ça a été assez rapide, enfin, je sais pas exactement.
Vous avez donné d'autres détails ? Sur la serviette, la longueur du cordon, le nettoyage de la salle de bain. Vous devez essayer de vous rappeler.
J'ai le souvenir d'avoir été à la salle de bain. Je me souviens que j'étais accroupie dans la baignoire. J'ai le souvenir de la sensation physique du bébé qui glisse à travers mon corps. Et après, Je vois plus rien, seulement ma main sur le visage.
Est-ce que c'est pour étouffer les cris de l'enfant que vous mettez votre main ?
Non. Enfin, je sais pas. Je sais pas. C'est très confus.
Monsieur le Président, je pense qu'il serait préférable de suspendre l'audience quelques minutes.
Très bien, Maître Leclerc. L'audience est suspendue.
Filmé vos films de procès, d'abord Un coupable idéal, puis Soupçon aux États-Unis, c'était d'abord pour des raisons pratiques, parce que c'est quand même plus facile, même si c'est pas toujours facile de planter sa caméra dans un prétoire. Mais votre dernier film, Parcours meurtrier d'une mère ordinaire, consacré à Véronique Courgeot et à l'affaire dite des bébés congelés, Là, vous êtes revenu en France, mais vous n'avez pas eu l'autorisation. Quel dispositif cinématographique vous avez choisi pour ça, Jean-Xavier Lestrade?
Je ne pensais jamais que je ferais un jour une sorte de documentaire fiction documentaire, ce mélange
ce genre
là,
hybride, c'est voilà, un peu bizarre. Au début, on se dit c'est louche. Hein.
Ouais, pour moi c'est assez suspect. Ça reste entouré d'une grande suspicion parce que le mélange des genres, fondamentalement, il y a quelque chose qui me dérange. Mais là, c'est une affaire où une mère de famille qui étouffe trois de ses nouveau-nés, dont les trois grossesses n'ont été vues ni par son mari, ni par l'entourage, ça interroge forcément. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette réalité apparemment totalement absurde, mystérieuse, étrange? Est-ce qu'il y a un sens à trouver? Or, ce sens-là, on ne pouvait le capter que si on pouvait enregistrer la parole de Véronique Congeau. Donc, pas d'autorisation pour filmer le procès. On a engagé deux cénotypistes qui ont pris en relevé, en note, l'intégralité des débats du procès. C'est par obligation, par nécessité, que je dis, je ne peux pas ne pas livrer cette parole, livrer ce sens-là dans cette histoire. Donc, voilà, allez, on prend le risque, on prend des comédiens, on rejoue une partie du procès.
Dans les lieux mêmes où il s'est déroulé.
Mais attention, on ne rejoue que des scènes publiques. Rien de l'intimité, et vous, rien de paroles qui auraient pu être échangées entre le mari, sa femme, en prison, je ne sais quoi, des scènes... Non, non, ce qui est reconstitué en fiction, ce sont des éléments publics, et les gens qui étaient présents lors du procès, quand ils voient le film, ils disent « mais oui, mais je reconnais, mais c'est bien ça, c'est de cette manière-là que ça s'est déroulé ». D'ailleurs, pendant le tournage du film, parmi les figurants, il y avait beaucoup de gens qui avaient assisté au procès. Il y avait même un membre du jury qui, par hasard, complètement par hasard, parce qu'il était sur la liste, le fichier des figurants de la personne qui s'occupait de la figuration à Tours, il était dans ce fichier-là, et puis elle dit, tiens, en voyant sa photo, mais lui, il ressemble à un juré, à un vrai juré, je vais l'appeler. Il dit, bah oui, je ressemble à un vrai juré. C'est moi, j'étais vraiment juré. Bon, on a demandé l'autorisation, voir si ça gênait quelqu'un. On a dit au président du tribunal, mais est-ce que c'est interdit? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Du moment qu'il ne vous livre pas le contenu des délibérations, il peut très bien le faire.
Il fallait arriver à redonner une impression de réel dans quelque chose qui était refabriqué.
Isabelle Razabet.
Donc on a pris le contre-pied absolument inverse de ce qu'on faisait par exemple dans une salle de procès sur les autres films. On positionnait les caméras à des endroits stratégiques et qu'on travaillait en longue focale et où on était susceptible de mettre en relation les différents personnages entre eux sans bouger et sans se donner à voir et en se faisant le plus petit possible et le plus invisible. Là, on a pris le contre-pied absolument inverse en essayant de singer une espèce de convention de regard du documentaire qui serait de l'épaule mais qui n'est qu'une convention et en essayant surtout de travailler sur la durée. Donc le fait de travailler à l'épaule, ça induit un certain nombre de choses, d'être proche des gens qu'on filme, et donc ça change tout dans le rapport à qui on filme, ça change tout dans le rapport de distance des divers protagonistes qu'il y a sur une scène de procès. Et l'autre chose, c'est que l'idée, c'était de travailler le plus possible en plan séquence pour que, dans le rapport à la durée, il y ait un sentiment comme ça de tension qui singe l'idée du documentaire.
Est-ce que vous filmez, Isabelle Razavet, de la même manière un personnage, une comédienne qui jouerait Véronique Courgeau et un personnage qui n'est pas un personnage de fiction comme Michael Peterson?
Oui, disons que en documentaire, je fais très attention à donner, à voir quelque chose de beau que j'aime chez les gens, enfin d'être dans un regard amoureux, enfin dans un regard très respectueux. Et je fais très attention à pas être en courte focale, en contre-plongée, à pas les abîmer et à leur donner une chance dans leur parole. Dans le cas de Véronique Courgeot, le problème c'est que Alix Poisson est d'une part beaucoup plus jeune que Véronique Courgeot, extrêmement jolie, extrêmement photogénique. Et la problématique était plutôt inverse. C'était comment faire en sorte pour que... j'ai essayé de l'abîmer un peu. À la lumière, elle prend terriblement bien la lumière. Donc j'essayais des rasants sur au-dessus. Vraiment à l'abîmer. Vraiment des lumières généralement impossibles sur les gens qui lui fassent des poches. Il fallait casser quelque chose de trop lisse. Et c'était un des enjeux dans le filmage et sur elle. Voilà.
Je peux vous demander de me commenter ce plan où on est à la fois dans le regard de Véronique Courgeot, mais son visage se reflète dans la vitre. Enfin, voilà, comment vous l'avez bâti, celui-là ?
Il y a une question quand on a su qu'on pouvait tourner dans le tribunal réel. Jean m'a d'abord dit, oui, mais le problème, c'est la vitre et il va falloir enlever cette vitre parce qu'on va avoir trop de problèmes de réflexion et tout ça. Et je lui ai dit, moi, je pense que le fait qu'elle soit enfermée derrière cette vitre, ça raconte quelque chose de très important et qu'il faut qu'on fasse de cette contrainte technique un vrai atout et qu'il y a quelque chose qui a tiré de ça, je suis sûre. Et comme elle est un peu l'ombre d'elle-même et qu'elle parle d'elle-même comme d'une autre personne qu'elle essaye de ressaisir et qu'il y a toute une problématique par rapport à ça, et de retour sur soi ou de réflexion, ou voilà, il y avait quelque chose à jouer avec ça. Et puis la réflexion permettait qu'on ait co-présent à la fois son reflet, mais ou son mari, ou le public, ou d'autres gens. Et donc il y avait quelque chose à tirer puisqu'elle était prise dans le regard des autres, toute la problématique étant du coup ne pas être pour autant dans un maniérisme ou dans quelque chose de trop joli.
Finalement, aujourd'hui, je suis particulièrement heureux que nous n'ayons pas pu filmer le vrai procès. Véronique Courgeot a vu le film lorsqu'il a été diffusé, elle l'a vu dans sa cellule, et le fait de voir et surtout d'entendre ses propres paroles prononcées par une comédienne, prononcées un peu comme elle les a prononcées, mais en même temps pas tout à fait de la même manière, ça crée une distance. Et au fond, pour le public, il y a quelque chose qui, à mon avis, est très sain, c'est que quand on voit Alix Poisson qui joue Véronique Courgeot et qui dit ses paroles, on ne cherche pas sur son visage la meurtrière, celle qui a étouffé ses bébés. On entend ce qu'elle dit. Si on avait eu la véritable Véronique Courgeot, la plupart des gens auraient fixé leur écran de télévision au lieu d'entendre véritablement ce qu'elle est en train de dire, auraient cherché dans son visage, dans son corps, auraient scruté et auraient essayé de dénicher, oui, le monstre, la meurtrière, celle qui avait étouffé les enfants. Et là, je pense que c'est très paradoxal, mais c'est une vraie leçon d'avoir fait ce film, d'avoir fait de cette manière-là, c'est que effectivement, parfois, il y a des limites à la manière de livrer l'intime, et même si c'est dans un lieu public, peut-être on peut le faire, mais peut-être il faut prendre aussi certaines précautions, et peut-être il faut pas comme ça jeter presque, je veux dire, en pâture les véritables protagonistes. Un film, c'est une responsabilité.
Merci beaucoup à Jean-Xavier de Lestrade, Sophie Brunet et Isabelle Razavet. Vous retrouverez toutes les références des films de Jean-Xavier de Lestrade par l'intermédiaire de notre site internet www.franceculture.com. Un coupable idéal et soupçons, la série documentaire sidérante consacrée à l'affaire Michael Peterson, ont notamment été édités en DVD. C'était Sur les docks, passeur de réel Jean-Xavier de Lestrade, un documentaire proposé par Joseph Confavreux, attaché de production Christine Gedge et Laure-Hélène Planchet, mixage Véronique Amiot, réalisation Diffy Mariani.
L'heure du documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens et podcasts pour le festival de Lussas, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire. Et demain, troisième épisode, un portrait d'Ariane Doublet.